toutes. Il est toujours agréable de pouvoir partager la parole sur des versets aussi positifs, puisque ce sont des promesses que Dieu nous accorde, nous, ses enfants, le fait qu'il nous affermira aussi jusqu'à la fin. Après tout ce que nous attendons de Dieu, nous le savons que trop, cela a encore été dit dans certaines prières, c'est avec humilité qu'on se présente devant Dieu, dans la simplicité de ce que nous sommes en tant que créatures, conscients de nos limites, de nos incapacités. Et donc ce que nous attendons de Dieu, c'est effectivement qu'il nous pardonne, que nous puissions être réconciliés avec lui, mais aussi qu'il puisse nous conduire et nous transformer, nous affermir, enfin nous garder. Dans le fond, qu'est-ce qu'un père digne de ce nom est amené à faire avec sa progéniture? Eh bien, sur le plan humain, eh bien, c'est ce que Dieu réalise dans sa perfection absolue. Il non seulement nous sauve en Jésus-Christ, il offre son propre Fils pour le prix de nos péchés, mais en plus de cela, il prend soin de nous jusqu'à ce que nous paraissions devant lui. Il va donc nous affermir, comme il est dit dans cet épître aux Corinthiens, repris par donc l'apôtre Pierre, qui développe un petit peu plus les choses lorsqu'il dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc l'objectif de Dieu dans cet affermissement de notre foi, c'est de nous amener jusqu'à un état de fort, de force, de stabilité, de bien-être intérieur, de certitude, de conviction inébranlable. J'ai rajouté un verset issu de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 10, qui, lui, nous présente les choses encore d'une manière, sous un angle légèrement différent, mais évidemment complémentaire. Après avoir exposé toute une série d'enseignements, en particulier sur la sainteté de Dieu, voilà ce qu'il dit aux chrétiens que nous sommes. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » La vocation et l'élection, ce sont des choses qui viennent de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui a choisi de nous élire et de nous communiquer, de nous donner une vocation. C'est dans sa souveraineté absolue qu'il en a décidé ainsi. Et voilà, en quelque sorte, on peut dire la rencontre de deux volontés, la volonté de Dieu qui nous a élus et qui nous a adressé une sainte vocation, qui rencontre la volonté de celui qui reçoit ce cadeau. L'élection et la vocation, c'est un cadeau au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, cette volonté de Dieu rencontre notre volonté, nous demandant effectivement de nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Dans des mots humains, il est évident qu'être élu et recevoir une vocation, c'est quelque chose de tout à fait remarquable et agréable et bienfaisant. Et en même temps, il y a cet aspect de la participation de nos personnes, du désir de répondre justement à ces dons que Dieu nous a accordés, le don du salut en Christ, le fait que nous ayons été élus dès avant la fondation du monde, et le fait que nous ayons été choisis, comme l'a dit notre président de culte, pour glorifier Dieu. La première des vocations du chrétien, c'est glorifier Dieu, et pas simplement en chantant des cantiques, mais en vivant d'une manière concrète et, oserais-je dire, palpable pour ceux qui nous entourent, tant chrétiens que non-chrétiens, manière palpable à vie nouvelle en Christ. Alors oui, Dieu va nous garder, Dieu va nous affermir, et en même temps, Dieu demande que notre volonté accepte, en quelque sorte, de se soumettre, de se plier à cette volonté de Dieu qui est bienfaisante, qui est juste, qui est parfaite, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, mais néanmoins qui réclame notre assentiment. Parce que si nous ne voulons pas obéir au Seigneur, eh bien nous n'allons pas bénéficier justement des bienfaits de l'élection et de la vocation qui nous est adressée. Alors nous aborderons ça, j'espère, dans le temps qui m'est imparti. Affermir une situation, c'est de la rendre plus stable. C'est aussi la rendre plus ferme. Et c'est pour ça qu'on parle de l'affermissement des convictions de quelqu'un. C'est formidable d'être sauvé, c'est formidable d'avoir répondu à l'appel du Seigneur, mais il n'empêche qu'une fois que l'on a répondu à l'appel du Seigneur, une fois que l'on commence à lire la Bible, à l'étudier, on se rend compte qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce que Dieu nous dit. On arrive dans la conversion, dans notre salut, on arrive avec nos conceptions, avec notre façon de voir les choses, notre éducation, nos expériences personnelles, nos souffrances, nos doutes, nos exaltations, nos joies, nos bonheurs. Et tout cela ne correspond pas toujours à ce que Dieu nous dit dans la parole. Et donc Dieu va nous affermir sur un plan intellectuel, c'est-à-dire qu'il va nous convaincre du bien fondé de sa volonté. Il va nous convaincre de certaines déclarations magistrales, j'allais dire péremptoires, mais pour Dieu ça ne convient pas. Dieu n'est pas péremptoire, il est magistral, il est souverain. Et donc nous avons besoin d'être convaincus de ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a des diagnostics de Dieu sur nous-mêmes, sur la société, sur la vie qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on imagine ou à ce qu'on croit. Et tout en étant sauvés, nous avons besoin en quelque sorte d'une révolution intellectuelle, spirituelle. Nous avons besoin d'une sanctification de nos pensées, nous avons besoin d'être affermis dans la vérité. Et puis il y a aussi, après l'aspect intellectuel, il y a l'aspect de l'expérience. Après tout, si nous ne lisons que les Saintes Écritures et si nous réfléchissons sur le texte inspiré, sans jamais agir, il va nous manquer une dimension tout à fait primordiale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que l'on découvre dans la méditation, dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'étude, mais il y a des choses qu'on ne découvrira que dans l'action, c'est-à-dire dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Je me souviens de ce chrétien qui, sauvé, authentiquement sauvé, n'était pas particulièrement épanoui. Et alors, c'était un intellectuel, il passait son temps à décortiquer les phrases des Saintes Écritures, les conceptions, les pensées, l'analysait tout ça. Mais évidemment, pendant qu'il analysait, il n'était jamais dans l'action. Il n'obéissait pas particulièrement, c'était un méditatif, un mélancolique, un contemplatif, un intellectuel. Et alors, au bout d'un certain temps, il y avait une sécheresse intérieure, parce qu'il n'expérimentait rien au travers de l'obéissance. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance intellectuelle très supérieure à la mienne, parce qu'il se posait des questions que moi je ne me suis jamais posées, je trouvais que la vie était beaucoup plus simple avec Dieu. Mais en attendant, moi j'étais plus heureux que lui. Et un jour, je lui ai dit, écoute, laisse un petit peu ton intelligence de côté, puis obéis. Vis les choses de Dieu, vis-les, mais mets-toi en marche et puis obéis, et tu vas voir. Alors au bout de 15 jours, 3 semaines, un jour, il s'est décidé à agir, à obéir. Et voilà qu'il est revenu tout sourire, complètement transformé. Il m'a dit, j'ai compris des choses qui m'étaient étrangères, qui m'étaient interdites, tant que je réfléchissais tout le temps. Mais dès que j'ai obéi, j'ai pénétré dans un monde. Je lui ai dit, oui, c'est le monde, d'après les Saintes Écritures, le monde de la plénitude du Saint-Esprit. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Alors une fois qu'on est sauvé, baptisé du Saint-Esprit au jour de notre conversion, si on obéit, le Saint-Esprit s'épanouit en nous, nous dirige et nous remplit, comme nous l'avons chanté. Mais si on n'obéit pas, oui, on est sauvé. Mais... Hélas, on n'expérimente pas cet affermissement lié à l'expérience de l'obéissance, au pas du disciple qui met ses pas dans celui du Seigneur. Il est bon de rajouter qu'en nous accordant par grâce le salut, Dieu nous donne aussi la capacité de persévérer. Non seulement il nous sauve, mais il nous équipe de cette capacité de persévérer qui provient évidemment de son Esprit Saint qui est en nous. La persévérance est le résultat de l'action du Saint-Esprit qui, justement, nous convainc, nous conduit, nous affirme et développe en nous cette expérience de sa personne. Nos convictions et nos bonnes résolutions s'affermissent aussi par la pratique et l'expérience. Si on décide d'obéir à Dieu, mais qu'on ne fait rien pour concrétiser cette pensée, ce désir, on n'aura pas l'expérience. C'est pour ça qu'il est dit en Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » Comment est-ce qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ ? Ben, par la foi. On lui a fait confiance, on lui a dit « Seigneur, je suis un pécheur, je le reconnais, je te demande pardon, donc je me repens, je me tourne vers toi pour changer de vie, donc je me convertis, je tourne vers toi et je te demande de me sauver. » Et la repentance toute seule ne sauve pas. Si la repentance n'est pas additionnée de la foi qui saisit le salut en Christ, eh bien, oui, on a demandé pardon à Dieu, mais on n'est pas sauvé. Mais une fois qu'on a fait cela, eh bien, Dieu nous demande de marcher en Christ de la même manière qu'on l'a reçu, c'est-à-dire par la foi. Je suis sauvé, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité, nul ne me ravira de sa main, et quand je dois obéir au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas regarder à mes propres forces. Ça va marcher un temps. Mais je regarde au Seigneur de la même manière que j'ai regardé à lui pour être sauvé. Et je lui dis, Seigneur, je n'ose pas faire ça, je n'ose pas mettre en pratique cette parole, parce que ça va me poser des problèmes avec mes amis, avec mes collègues étudiants, mes collègues de travail, ma famille, enfin que sais-je. Seigneur, je n'ose pas, mais par la foi je veux le faire. Je compte sur toi, conduis-moi pour vivre ces choses. De la même manière que vous avez reçu Christ, marchez en lui. On n'avait rien en nous pour réussir à nous sortir de nos péchés. Dieu nous a tout donné. On n'a rien en nous pour réussir à vivre la vie d'obéissance. On doit tout recevoir comme on a reçu le salut de la main de Dieu. Et c'est pour ça que la vie chrétienne est une vie d'intimité, de relation avec Christ. Et je me permets de dire, tout en restant dans ce qu'on appelle l'analogie de la foi, d'expérience avec Jésus-Christ. Fondée sur les Saintes Écritures et sur la vérité révélée. Oui, Dieu veut nous remplir de sa présence. Oui, le Seigneur veut nous faire vivre des choses avec lui. Alors, dernièrement, j'ai rencontré un chrétien, qui a, je pense qu'il a 45-50 ans, et il a eu une vie très mouvementée. Il m'expliquait ça, je ne lui ai jamais rien demandé. Vous savez, quand vous ne demandez rien aux gens, mais que vous vous intéressez à eux, ils vous racontent leur vie. Vous savez ça, vous, les Asiatiques, hein, plus fins que nous, les Occidentaux, pour apprendre des choses, vous regardez les gens, vous attendez qu'ils vous parlent. Alors c'est pareil, un pasteur. Et alors l'autre jour, depuis des mois et des mois qu'il vient à l'église, l'autre jour, je me suis trouvé devant lui, et là, il s'est mis à me parler. Vraiment de choses profondes. Et ce qui m'a intéressé, c'est que je l'écoutais, et je me suis dit, lui, il a compris comment ça marche avec le Seigneur. C'est quelqu'un d'assez simple, mais il a l'intelligence spirituelle. Dieu lui a donné de comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas un intellectuel, pas du tout. Mais alors, en ce qui concerne la compréhension des choses de Dieu, je peux vous dire qu'il est bon, grâce à Dieu. Hein, c'est le Saint-Esprit qui vous équipe de la sorte. Et alors il me dit, tu vois Jean, j'ai compris ceci avec Dieu. Et je me dis, ça, ok, ça correspond à la vérité biblique. Et puis à un moment donné, il me dit... J'ai un ami chrétien qui traverse une très très mauvaise passe et je l'ai eu au téléphone. Et vois-tu Jean, au lieu que ça me décourage de voir un chrétien qui a beaucoup plus d'âge que moi en Christ mais qui va de travers, au lieu que ça me décourage, il a dit j'ai raccroché, j'ai réfléchi dans ma relation avec Dieu et je me suis dit mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ce chrétien qui est rétrograde pour le moment ? Alors je le regarde, puis il me dit, tu vois Jean, j'ai compris qu'il ne fallait pas regarder à ce genre de chrétien, qu'il fallait regarder à Christ. Alors il dit, je regarde à Christ Et ce n'est pas parce que lui va de travers que je suis découragé, parce que mes regards se portent plus sur celui-là, mais sur le Seigneur avec lequel j'ai une relation. Et il a conclu notre entretien par cette phrase. Il m'a dit « Dieu, maintenant, c'est mon Dieu ». Et là, je me suis dit « Lui, ça y est, il est passé véritablement dans cette expérience d'une intimité avec Dieu ». Alors je le regarde, je prie pour lui, je ne me fais plus de soucis pour lui. Quand Dieu vous met ça dans le cœur et dans l'âme, c'est pour toujours. Il n'oubliera plus ce qu'il vient de vivre. Et Dieu va construire, c'est comme ça que Dieu construit dans nos vies et nous a fermis dans cette intimité avec lui. Évidemment, ce n'est pas, comme je le partage avec vous, un développement naturel, mais c'est... Oh là, ça passe vite, hein. Mais c'est une œuvre du Saint-Esprit, comme la conversion. Le Seigneur veut nous délivrer de notre instabilité, de nos doutes. Quand j'entends des hommes spirituels, enfin, entre guillemets, dits spirituels, des représentants de religion qui nous affirment à tout bout de champ que la foi, c'est le doute... Mais je lui dis, mais ces hommes-là, ils ne lisent pas l'Écriture sainte, ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Que l'on doute de soi-même, je veux bien, mais que l'on doute de Dieu et de la foi qu'il nous a donnée, permettez-moi de vous dire que c'est complètement anti-biblique. La foi, ce n'est pas le doute. La foi, c'est la connaissance de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Même si notre foi est petite, le Seigneur est le même, il est grand et éternel, et il n'y a pas de doute là-dessus, nous sommes sauvés. Il nous aime. Mais ce que le Seigneur va développer en nous, c'est d'augmenter nos convictions, nos certitudes, notre paix, notre expérience avec lui. Pourquoi ? Parce que vous et moi, nous sommes confrontés en permanence à des gens qui ne voient pas les choses comme nous et qui sont loin d'être bêtes. Hein. Ils ont des fois des argumentations extraordinairement bien développées, fondées sur des choses vraies. Et il y aurait de quoi parfois, pour certains d'entre nous, douter. Et Dieu va nous apprendre, dans un monde qui s'oppose à sa vérité, à sa personne, il va nous apprendre combien il est au-dessus de toute pensée, combien ce qu'il nous dit de lui, ce que la Bible nous rapporte de lui, combien cette parole est juste, je ne trouve plus mon objectif, et pertinente, combien c'est vrai. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que cela nous laisse dans une situation de dépendance de Dieu, d'humilité, de simplicité. J'imagine parmi vous, il y a des intellectuels. Je sais que les Asiatiques aiment beaucoup étudier, réussir, et vous avez bien raison, faites-le. Et si vous êtes diplômé, félicitations. Et si vous pouvez poursuivre encore vos études, faites-le, parce que plus vous serez diplômé, plus vous toucherez des gens que je ne toucherai jamais. Mais alors, faites-le pour le Seigneur. Faites-le pour le Seigneur. Et plus on se laisse conduire par le Seigneur, plus on découvre combien la crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Dans toutes les disciplines, commencement de la science, la crainte de Dieu. En même temps, c'est extraordinaire d'avoir dans une communauté chrétienne, dans une église, des chrétiens affermis. C'est une force. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien affermi, il va pouvoir consoler les affligés, parce qu'il lui aussi il est passé par là. Et puis le Seigneur l'a fait sortir de toutes ses difficultés, ses épreuves, ses afflictions. Peut-être même est-il encore dans l'affliction, mais avec une connaissance du Christ vivant et ressuscité qui fait que, oui, il rencontre des soucis, des difficultés, mais il est vivant et confiant dans son Sauveur. Alors il va consoler les affligés, il va secourir les faibles. Je vous parle aujourd'hui comme je le fais parce que j'ai 45 ans de vie chrétienne. Mais si vous m'aviez connu, si je vous avais connu, pardon, lorsque j'avais 6 mois de vie chrétienne, je n'aurais pas pu vous parler comme ça. Je savais des choses, mais tellement peu, et j'en sais un peu plus, mais tellement, je suis tellement loin de savoir des choses sur Dieu. Ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'on n'est jamais, rassasié de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 45 ans après, en ce qui me concerne, je trouve ça extraordinaire. J'ai des frères et sœurs en Christ qui ont 60, 65, 70 ans de vie chrétienne. C'est extraordinaire. Ils ne sont pas rassasiés, ils ne sont pas fatigués, vous savez, usés par l'habitude. Ils sont en permanence renouvelés. C'est une affaire unique. Il n'y a que le christianisme qui vous permet de vivre des choses pareilles. Et donc, ce que Dieu va faire de nous, c'est des chrétiens fermes, comme des colonnes d'un temple. Hein, c'est Jacques et Jean qui sont appelés avec ces faces, les colonnes, hein, dans l'Épître aux Galates. Mais c'est pareil pour les chrétiens. Pour vous et moi, nous pouvons être appelés des colonnes dans l'Église du Seigneur. Et quelles sont les caractéristiques des colonnes ? Ben, c'est qu'ils ne sont pas entraînés ça et là à tout vent de doctrine. Et puis, ils ne sont pas non plus dépassés ou surmontés par une tentation soudaine. Vous savez, ce qui est frappant quand on est pasteur, c'est de recueillir certaines, enfin, pour ceux qui ont le courage de le faire, les confidences de certains chrétiens. Et vous, des fois, je suis frappé parce que je me dis, mais comment ça t'est arrivé, quoi, d'un seul coup basculer comme ça ? Un manque de préparation, un manque de protection, d'avoir veillé sur soi-même. Mais un chrétien ferme, c'est quelqu'un qui va pouvoir résister à la tentation. Paul parle de chrétiens que Dieu affermira jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'ils s'attendaient pour eux à la protection de Dieu jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Mais Paul, qui est un des grands intellectuels des Saintes Écritures, vous savez qu'il y a deux immenses géants, un pour l'Ancien Testament, c'est Moïse, il n'y a pas plus intellectuel que Moïse, et pour le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, il n'y a pas plus intellectuel que ces deux hommes-là, et ces deux croyants, ces deux hommes de Dieu, c'est remarquable. C'est pour ça, faites des études, hein, ça ne vous empêchera pas d'avoir la foi et de vivre pour Dieu. Et Paul ne s'appuie pas simplement sur des impressions, sur un enthousiasme particulier, personnel. Il s'appuie sur la connaissance du Dieu d'Israël. Après tout, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, hein, il connaît l'Ancien Testament et il connaît les déclarations de Dieu. Quand Dieu s'adresse à son peuple de l'Ancien Testament, Israël, et qu'il lui dit « à cause de mon nom, je ferai en sorte que vous reveniez à moi ». À cause de moi, j'interviendrai en votre faveur, alors que c'est un peuple qui est parfois, à certaines périodes de sa vie, en perdition spirituelle. Mais voilà que Dieu se présente comme celui qui, justement, affermit, sauve, ramène à lui ceux qu'il a élus et à qui il a adressé une vocation. Et c'est en partant de cette connaissance de Dieu, de l'Ancien Testament et de son expérience avec le Christ ressuscité, que Paul peut dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, ben oui, Dieu vous affermira jusqu'à la fin. Et à qui est-ce qu'il dit ça ? Aux chrétiens de Corinthe. Où il va ensuite les reprendre systématiquement pour une série de péchés invraisemblables dans cette église et de déviations doctrinales également. Mais Paul connaît son Dieu et le Dieu de ces Corinthiens qui ont été eux aussi élus en Christ. Et à qui une sainte vocation a été adressée. Alors il leur dit, avant de les reprendre et de les amener sur le bon chemin, sur le droit chemin, il leur dit qu'il a la certitude que Dieu ira jusqu'au bout avec eux. Et donc l'affermissement promis par le Seigneur, c'est un affermissement progressif du croyant. C'est ça qui est remarquable avec Dieu. Il agit avec nous comme on le fait avec ses propres enfants. On ne va pas exiger d'un enfant, un nourrisson, qu'il mange un beefsteak. On ne va pas exiger d'un enfant de 4 ans qu'il connaisse toutes les principes d'éducation et de bienséance et de bon comportement. On va l'éduquer. On va lui communiquer une connaissance. On va l'accompagner pour justement l'équiper. C'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il nous sauve, il nous adopte, il fait de nous ses enfants et il commence un travail où c'est la personne de Christ que Dieu développe au travers de chacun d'entre nous, qui sommes sauvés, qui sommes venus au Seigneur Jésus-Christ par la foi. Oui, Dieu fait cette œuvre pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Et voilà une des directions de l'affermissement. Et puis, je suis obligé de couper un petit peu mon message aujourd'hui. Malgré nos manquements, le Saint-Esprit peut agir en nous. C'est-à-dire que si nous sommes découragés par nous-mêmes et que ce ne sont pas des péchés volontaires que nous commettons, et des fois on commet des choses, on ne se rend même pas compte de ce qu'on a commis, c'est le Seigneur qui nous dit « écoute, ça c'était pas bien ». Et le diable essaye de nous écraser par cela. Mais la Bible nous dit « si c'est le cas, il faut venir au Seigneur et lui demander pardon quand on a pris conscience d'une faute ». Mais malgré nos manquements, le Saint-Esprit peut agir en nous. Et le Seigneur pourra dire de beaucoup de croyants ce qu'il a dit de Job quand Satan se tint devant lui. « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Vous savez que l'actualité nous a rappelé, par le décès de Nelson Mandela, les qualités morales de cet homme. Épris de justice et de liberté, pratiquement 30 ans en prison, sans abdiquer une seule fois sur les valeurs morales qui ont guidé sa vie. Justice, liberté. Et on peut rajouter non-violence en ce qui le concerne. Si quelqu'un qui n'a pas, à ma connaissance, en tant qu'homme d'État, leader politique et moral, n'a pas pu dire clairement, à ma connaissance, qu'il était chrétien, nous qui le sommes et qui sommes appelés à témoigner, n'oublions pas que des non-chrétiens ont des comportements exceptionnels, mais qui deviennent des comportements possibles pour le commun des chrétiens que nous sommes. Parce que c'est Jésus-Christ, notre source de vie. Il est capable de nous conduire, justement, dans la vérité, dans la justice, dans la droiture de cœur. Faisons en sorte de jamais nous engager dans des voies tortueuses et de donner ainsi aux adversaires l'occasion de blasphémer. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 12, nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite ». Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous avons donc un témoignage interne dans la communauté chrétienne. Vous et moi, nous avons un témoignage à rendre pour encourager nos frères et nos sœurs, un témoignage à la gloire de Dieu, chacun pour nous-mêmes, en faveur de la communauté, donc en faveur de tous. Et puis nous avons un témoignage à porter à l'extérieur, vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et Dieu nous affermira dans ces deux témoignages. Il nous donnera cette force intérieure d'être attachés à ce qui est juste, vrai, droit, honnête et pur, à l'image de Dieu, à l'image de la nature de Dieu, à l'image de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce domaine de la progression dans l'affermissement, donc dans le chemin de la sainteté, n'oublions pas qu'il nous sera fait selon notre foi. Je dis bien dans ce domaine. Le domaine de la sainteté, si nous la demandons à Dieu, il va nous l'accorder. Il y a d'autres domaines où on est amené à demander des choses que Dieu, dans sa souveraineté et son intelligence, ne nous accorde pas toujours. Donc je parle vraiment dans le domaine de la recherche de la sainteté et de l'obéissance. Il en sera fait selon notre foi, c'est-à-dire selon notre désir d'être transformé à l'image de Dieu pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.